Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau format dans le viseur, aujourd'hui en partenariat avec l'école de guerre. Et j'ai donc le plaisir de recevoir le commandant Thibault de l'armée de terre. Bonjour.
Bonjour Alexandre.
Donc vous êtes cette année évidemment en détachement à l'école de guerre et vous êtes ici pour nous raconter un souvenir. Alors j'allais dire assez récent, mais en même temps ça commence un petit peu à remonter, c'était en 2015, dans le cadre de l'opération Barkhane j'imagine.
Exactement, tout à fait.
Et donc, où ça? Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, où est-ce que c'était?
Donc le souvenir dont j'aimerais vous faire part aujourd'hui, s'est passé sur la zone des trois frontières.
Donc c'est un peu les trois, quoi.
C'est un petit peu les trois, sauf que ce n'est pas ces pays-là, puisque là, il s'agit de la zone des trois frontières entre la Libye, l'Algérie et le Niger. Donc à ce moment-là, le groupement tactique désert, qui est l'unité donc tactique à laquelle j'appartenais, avait la spécificité parachutiste, puisque je suis moi-même issu d'un régiment parachutiste qui se trouve à Tarbes. Nous avons pu opérer dans cette zone avec une mise en place particulière, qui était une mise en place par saut.
Voilà. Et c'était habituel dans le cadre de Barkhane, ce mode d'action-là? Parce que Barkhane, spontanément, on a l'idée des avions de patrouille maritime, des drones, des hélicoptères aussi, mais les sauts, les parachutages, ça arrivait souvent?
Alors, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est le deuxième régiment étranger de parachutistes qui a remis sur le territoire en 2013, au goût du jour, le saut opérationnel, qui...
Alors c'est quoi le saut opérationnel précis?
Qui n'a en soi comme objectif que d'être un moyen de mise en place. Ce n'est pas l'opération en elle-même, c'est la mise en place pour accéder à l'opération. Donc le saut opérationnel, c'est la capacité de pouvoir larguer un nombre assez conséquent de parachutistes dans une zone donnée, et donc de s'affranchir des délais traditionnels d'acheminement par véhicule, avec tout ce qui s'y prête, c'est-à-dire le bruit, puis la lenteur aussi, parce que quand on...
Les dangers de la route aussi.
Les dangers de la route.
Les IED, etc.
Ce genre de choses. Et l'objectif, c'est de pouvoir créer la surprise dans une opération, ou comme dans toute opération, le renseignement est une des phases clés pour l'ami comme pour l'adversaire.
Alors c'est quoi un nombre significatif, important là?
Une centaine. Une centaine de parachutistes largués, ayant plusieurs capacités différentes, des fantassins, des artilleurs, des sapeurs, tous appartenant à la 11e brigade parachutiste. Qui maintient ses savoir-faire et pour lequel la mise en place par saut est un petit peu l'ADN. Voilà. Et on a pu réaliser ces mises en place à des fins opérationnelles.
Mais alors c'est quoi l'objectif? C'est on largue tout le monde avec, j'imagine, aussi beaucoup de matériel, etc. Et ensuite vous mettez en place quoi? Un camp avant de faire des choses? Ou c'est une mission beaucoup plus court terme où juste vous atterrissez, vous partez faire votre mission et ensuite vous repartez?
Alors la mission qu'on avait, c'était de contrôler les flux logistiques GAT, donc GAT comme groupe armé terroriste, donc nos ennemis là-bas, en appui de l'armée nigérienne. Donc là, on était quand même, je rappelle quand même que c'est pas la France qui fait ça, l'armée française qui fait ça, on va dire, d'elle-même. Elle travaille bien entendu en collaboration et en coopération avec les armées présentes. Et pour cela... l'objectif était de surprendre ces flux. Vous imaginez bien qu'une colonne de véhicules blindés partant du nord du Tchad, par exemple, et se rendant dans cette zone-là, aurait été très rapidement détectée. Et donc l'objectif était, en amont, de pouvoir préparer cette opération par une opération beaucoup plus discrète, à base de parachutage, et qu'ensuite la mission complète soit réalisée in fine par l'ensemble des parachutistes de ce groupement.
Et surprendre les flux, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc pouvoir intercepter des convois qui passeraient
L'ennemi qu'on avait, c'était des pick-up, clairement, qui étaient chargés soit de drogue ou soit d'armes, parce que c'était, clairement, ça partait de Libye, ça arrivait au Mali, et donc ça passait par cette zone. Et l'objectif était de comment dire, de surprendre ces fûts-là, en gros, en faisant une sorte de contrôle de zone très élargi. Et
qu'ils vous aient vu venir.
Sans qu'ils nous aient vu venir, exactement. Parce qu'ils avaient pour eux la rapidité et la connaissance de la zone. Et donc, nous, il fallait qu'on leur oppose un mode d'action qui soit supérieur ou en tout cas plus agile pour être sûr de pouvoir essayer de choper ces pick-up qui roulaient parfois très vite, hein, jusqu'à 150-160 km/h dans les dunes. Oui, ça paraît quand même assez impressionnant, mais c'est réel.
Et alors, ça se passe comment, une opération comme ça? C'est-à-dire, vous partez d'où? Vous partez à combien d'avions? Enfin, ça implique combien de personnes? Parce que j'imagine que s'il y a 100 parachutistes largués, c'est qu'il y en a, il y a beaucoup plus de personnel autour. Donc voilà, comment est-ce que ça se prépare, un truc comme ça?
Une opération aéroportée, c'est une opération assez complexe. Parce que déjà, elle met en jeu plusieurs composantes, au moins deux, l'armée de terre avec les parachutistes et l'armée de l'air et de l'espace avec les aéronefs. C'est une opération donc interarmée. Donc ça, c'est un petit peu pour le gros, comment dire, l'environnement. Et c'est bien entendu une opération qui est préparée et présentée et validée par les autorités de Barkhane, donc le poste de commandement interarmé de théâtre qui se situe toujours à N'Djamena. Ensuite, on a donc des avions de transport, donc des C-130 Hercule, donc un avion quadrimoteur, ou des C-160, qu'on a, je crois, plus d'ailleurs maintenant, un avion bimoteur, le Transal, assez connu, hein, je pense, en tout cas de la part des auditeurs. Donc ça, c'est les avions qui vont acheminer les parachutistes. En plus de ça, il y a tout un, ce que j'appellerais un petit peu un écosystème de l'armée de l'air et de l'espace pour garantir la sécurité et la sûreté des avions, des aéronefs, donc à base donc d'avions de chasse, et d'assurer également une certaine sécurité de la zone en assurant un renseignement avec, par exemple, des drones qui donnaient des remontées de renseignements.
Voilà. Et vous partiez d'où ?
Alors nous, on partait du Tchad.
Ça faisait déjà longtemps que vous étiez sur zone, ou c'est le premier truc que vous avez fait en arrivant ?
Non, c'était plutôt vers la fin. Il y a eu 3 opérations aéroportées pendant mon mandat, et moi, c'était la dernière à laquelle j'ai participé. Et donc, je partais, on est parti de N'Djamena, et on était largué là-bas. Et c'est un moment vraiment particulier, parce que le saut opérationnel, beaucoup de gens y pensent, et peu ont la chance, parce que c'est une vraie chance, enfin en tout cas l'opportunité de la réaliser. Je me rappelle d'un de mes camarades sapeurs avec lequel j'ai passé 4 mois quasiment, qui était un capitaine assez ancien, qui avait 240 sauts en ouverture automatique à son actif, et qui m'a dit, je me rappellerai très bien, tous ces sauts pour celui-là. Donc pour lui, c'était comme un aboutissement.
Parce qu'on s'entraîne beaucoup à sauter au parachutage, et en même temps, c'est pas si fréquent que ce soit le bon outil sur le théâtre d'opération, quoi.
Alors, il y a plus que ça, si vous voulez. Il faut quand même un certain nombre de moyens. Parce qu'on il faut déjà les bonnes personnes. La brigade parachutiste n'est pas la seule brigade engagée. Hein. Fort heureusement, il y a d'autres brigades qui tournent sur les tours OPEX. Et ensuite, il faut également qu'il y ait une raison opérationnelle, parce qu'on va pas sauter pour sauter. On va sauter parce qu'on va y trouver un véritable intérêt. Et on avait un intérêt à sauter là-bas. En tout cas, les chefs en étaient convaincus. Donc, si vous voulez, on a cette mise en place.
C'est fascinant, ce truc du saut en parachute qui, en même temps, je sais pas, parfois on a peut-être l'impression que ça fait partie intégrante des armées. Enfin, on sait qu'il y a un certain nombre d'unités parachutistes. Enfin, c'est une spécialité. Et en fait, ce que vous nous indiquez, c'est que c'est assez rare, quoi. C'est de s'en servir vraiment.
Mais parce que, comme je vous dis, à premier titre, il y a besoin d'avoir une véritable raison opérationnelle pour le faire. Un saut en parachute a pour principal objectif d'aller vite, loin, et pour avoir un effet particulier, pour permettre ensuite à une force plus dimensionnée, avec des blindés notamment, qui permettent de pouvoir réaliser plus de missions et d'actions, de pouvoir arriver.
C'est la tête de pont, quoi, les parachutistes.
Exactement. On appelle ça la tâche d'huile, si vous voulez. C'est véritable. Faut voir ça comme une tache d'huile où vous avez au début une petite goutte qui arrive et ensuite, au fur et à mesure des largages, eh bien, cette goutte, en fait, elle se répand. Et une fois qu'elle est suffisamment importante, eh bien, on peut acheminer d'autres forces. Voilà, c'est exactement ça.
Donc là, votre mission, c'est de sauter, mais alors, pour une fois, pas particulièrement tâcheux, vous attendez pas des blindés, la mission, c'est de sauter donc avec vos sangars et de contrôler une zone étendue. Alors, d'ailleurs, vous allez me dire, c'était une très grande zone.
Ah, c'était une zone assez importante.
Mais c'est quoi importante?
J'ai plus les abacs en tête, mais plusieurs kilomètres, plusieurs dizaines de kilomètres carrés, en tout cas. Maintenant, l'objectif était une mise en place par saut, et au bout d'un certain temps, plusieurs jours, on a ce qu'on appelait une rame roue, comme ça l'indique, hein, donc un certain nombre de véhicules qui arrivaient pour poursuivre l'opération, pouvoir la relancer et autres, et également nous amener de la logistique, parce que en plein désert à l'été, la consommation d'eau est excessivement élevée. Et donc, on a un besoin vital de se faire ravitailler pour pouvoir tenir.
Et vous sautez avec quoi? C'est-à-dire un parachute, j'imagine, évidemment, mais en termes de matériel, c'est-à-dire vous sautez, donc il y a vous, il y a les hommes, j'imagine qu'il doit y avoir quelques palettes de matériel. Est-ce qu'il y a des véhicules aussi? Est-ce qu'il y a du matériel pour faire des abris plus ou moins en dur? Enfin, c'est-à-dire, quel est le niveau, pas de confort, mais de matériel avec lequel vous sautez dans un cas comme ça, quoi?
Alors, le niveau de confort, il est plutôt restreint. Notre arme, notre armement, notre matériel. Donc, on saute avec notre frag. Donc, la frag, c'est le gilet pare-balles. Avec notre FAMAS, maintenant avec le HK, qui est le nouveau fusil. Notre sac, notre musette, en fait, avec de l'eau, de la nourriture et quelques matériels supplémentaires.
Et vous n'avez pas de tente, vous n'avez rien?
Non, on a un filet de camouflage par-ci ou autre, mais là, l'objectif, si vous voulez, c'est que à plusieurs, comme je vous dis, plusieurs litres d'eau par homme et par jour, on a besoin d'avoir un maximum de place qui soit prise par ce qui nous est indispensable, donc l'eau et la nourriture, et puis les munitions. Et puis le reste, ben on se débrouille et on a 3 jours à
mais donc tout tient sur vous. C'est-à-dire vous portez tout ce dont
alors
vous avez
on
besoin.
Porte, on a notre, on, comment dire, tout ça c'est inséré dans une gaine, donc là, ce qu'on appelle la gaine, c'est-à-dire vous avez une sorte de sac, de lanière qui enserre votre sac et qui est relié à votre parachute par soit une corde ou soit une lanière, et qui est délestée et qui en fait touche le sol avant vous, et ensuite...
Vous avez un petit baluchon, quoi.
C'est ça. Ce que vous voyez, si vous regardez quelques sauts en parachute, de temps en temps, vous voyez une sorte de sac un peu bizarre qui se situe quelques mètres en dessous du parachutiste, bah c'est sa gaine. En gros, sa gaine, c'est ce qu'il a pour vivre. Et donc nous, une fois qu'on a été mis à terre, j'ai récupéré ma frag, j'ai récupéré mon arme, et je suis parti pour me mettre en place, pour m'infiltrer, ensuite pour aller dans la zone où je devais aller.
Et tout ce qu'il y a dans la gaine, vous le laissez quelque part dans un coin, ou vous prenez tout avec vous?
On prend les choses avec nous pour être sûr de rien laisser. Et c'est ce qu'on peut vraiment pas prendre avec nous. On se débrouille pour le mettre à un endroit où on est sûr que personne ne le retrouvera.
Ouais, d'ailleurs, j'allais dire, c'est tout bête, mais le parachute, vous en faites quoi? Parce que c'est pas, ça a l'air d'être lourd, encombrant, etc. C'est pas forcément le truc le plus utile au quotidien. A priori, c'est un peu à usage unique. Enfin, pas à usage unique, mais...
Ouais, on le cache. Et puis ensuite, quand on a un moment, on vient le récupérer pour pouvoir être sûr de pouvoir le... Qui tombe pas aux mains de n'importe qui, voilà.
Ah ouais, c'est...
Ah bah tout, oui, tout, c'est un matériel militaire. On peut pas s'amuser à le laisser ça comme ça.
Oui, mais bon, spontanément, comme ça, on se dirait, avant que les groupes armés terroristes se servent d'un parachute, il faudra déjà qu'il y ait des avions, etc. Quoi. Donc, ça paraît pas le truc le plus stratégique. Quoi.
Oui, mais vous savez, vous pouvez avoir plein de moyens de... aujourd'hui, avec tous les moyens de communication, une vidéo qui est faite avec un parachute déplié. Enfin, on ne sait pas comment ça peut être utilisé. On n'a pas le...
Ok, donc vous sautez. Déjà, vous sautez de jour ou de nuit?
De nuit.
Toujours ou là?
Non, pas forcément. Il y a des sauts qui se font en deux jours, mais la plupart du temps, si on veut être sûr d'être vraiment le plus discret possible, c'est de nuit et si possible de nuit vraiment noire. Comme ça, au moins, on a...
Et l'avion, est toutes lumières éteintes, etc.
Oui, c'est ça. Vous avez juste la lumière rouge qui vous indique que c'est pas encore le moment. Et puis ensuite, vous avez une lumière verte avec une sirène qui vous dit que là, bah, c'est le moment, il va falloir y aller.
Et vous sautez de haut, c'est tout bête, mais j'ai aucune idée.
300 mètres.
Et c'est haut pour un parachute. Enfin, j'ai aucune notion de
non,
si c'est haut.
Non, c'est pas très haut. Comme je vous ai dit en début de cette discussion, on a fait un saut en ouverture automatique. C'est-à-dire que vous avez une sangle qui est attachée à un câble et qui est reliée à votre parachute. Et c'est le fait de sauter qui déroule cette sangle, et cette sangle tire votre parachute, et celui-ci s'ouvre, et vous avez grosso modo 3 secondes entre le moment où vous sortez de l'avion et le moment où votre parachute s'épanouit. Et le saut...
C'est comme ça qu'on dit, il s'épanouit ?
Oui, exactement.
C'est joli, c'est poétique.
Voilà, c'est poétique, vous voyez, même des parachutistes sont capables de faire preuve de...
J'en doutais pas.
Et
ok, ensuite... mais et alors ça, c'est quoi l'avantage par rapport... Donc si ça, c'est ouverture automatique, j'imagine qu'il y a des sauts à ouverture manuelle.
Retardée. Ouais, SOCR, ce qu'on appelle SOCR, ouverture commandée retardée. Et en fait, c'est pas le même objectif. Vous n'avez pas le même nombre de personnes et le même effet. Encore une fois, on parle d'effet tactique sur le terrain. L'objectif de l'ouverture automatique, c'est beaucoup de monde au même endroit et très rapidement disponible au combat. Quand vous avez... vous sautez à 300 mètres, vous larguez 75 ou 80 ou 100 parachutistes, voilà. Ben vous avez très rapidement beaucoup de toute cette force présente en quelques secondes, quelques dizaines de secondes.
C'est vrai que vous n'êtes pas vulnérable avec votre parachute en train de descendre.
On est moins vulnérable. Moins on saute de haut, moins on est vulnérable, puisque moins on passe de temps sans pouvoir se servir de notre armement. Voilà.
Donc, et du coup, ça fait combien de temps? 300 mètres, ça fait combien de temps de saut?
Je crois qu'on est dans l'ordre des 30 à 40 secondes de saut.
Ah ouais, ok. Ah oui, donc okay, c'est vraiment très rapide, quoi.
Après, tout dépend. Plus vous êtes chargé, plus vous descendez vite.
Oui, ça paraît clair.
Voilà, vous avez quand même cette variable qui est aussi importante. En fonction du vent également, avec lequel vous sautez, voilà, tout ça peut changer. Mais globalement, on est dans ces ordres-là, environ 45 secondes.
Alors que si vous sautez depuis plus haut, donc à moins, c'est quoi l'objectif ?
Eh bien, l'objectif, c'est de plus haut. Déjà, vous êtes en général moins nombreux. Et ce sont des procès différents où là, vous pouvez véritablement vous infiltrer. Voilà.
Oui, parce que l'avion est moins
visible. Parce que quand vous sautez à 300 mètres, vous imaginez bien que les gens sur place vous entendent. Ça, c'est obligatoire. Voilà. Bon, normalement, dans le désert, de nuit, il y a a priori assez peu de personnes qui sont censées vous entendre.
Bah, en même temps, il y a des collègues, des camarades à vous qui m'ont déjà dit qu'on est toujours surpris du monde qu'il y a dans le désert.
On est vraiment toujours surpris du monde qu'il peut y avoir effectivement dans le désert.
Ouais. Donc vous sautez de nuit, vous atterrissez. Déjà, il est quelle heure, de nuit
On a sauté aux alentours, dans début de nuit, vers 21h30 ou 22h.
Vous avez toute la nuit pour vous mettre en place ensuite
L'objectif, c'est de se mettre en place le plus vite possible, effectivement, pour pouvoir, justement, après, être en mesure de remplir notre mission dès le lever du jour.
Ouais. Voilà. Et vous en avez trouvé, des pick-up ?
Alors, cette fois-ci, non. On n'en a pas trouvé. Par contre, on a trouvé des plots logistiques. En fait, les groupes armés terroristes utilisaient, comme je vous dis, donc les pick-up, mais vous imaginez bien que pour faire ces centaines et centaines de kilomètres dans le désert, il fallait qu'ils aient des endroits, ce qu'on appelle un peu des stations-service, hein, pour pouvoir se ravitailler. Et nous, notre objectif, c'était de les trouver et bien entendu de les détruire. Et on en a trouvé plusieurs à ce moment-là.
Et comment vous les trouvez ? Enfin,
Non,
mais je veux dire, ça se voit, ça se détecte, il faut trébucher dessus pour les trouver.
Non, en fait, si vous voulez, vous avez, il y a une répartition des personnes sur le terrain, et une fois, comment dire, que on a passer la première phase de l'opération, où on a notamment des véhicules qui arrivent, on peut un peu plus rayonner et chercher à droite et à gauche. On a pour ça notamment c'est le travail des cavaliers, qui sont sur des véhicules blindés légers, dans des véhicules assez extrêmement qui manœuvrent très très bien dans le sable et qui vont chercher de la reconnaissance, quoi. Voilà. Et l'objectif, c'est d'essayer d'agrandir le cercle pour aller toujours, essayer d'aller toujours plus loin pour trouver ces fameux plots.
Mais ça ressemble à quoi un plot? Parce que ça pose, c'est toujours la question de. En fait, on dit toujours. À la fois, les groupes armés terroristes sont très organisés et en même temps, c'est très artisanal aussi. C'est-à-dire, c'est toujours compliqué de se rendre compte à quel point c'est un truc bien structuré, quoi.
Ben, effectivement, mais si vous voulez, trois bidons d'essence, c'est un plot logistique.
Ok.
Voilà.
Et comment vous êtes sûr que c'est pas trois bidons d'essence qui sont au village d'à côté? Enfin, c'est tout bête, hein, mais...
Alors, dans cette zone,
ouais.
C'était pas un village d'à côté. Non, mais parce qu'en fait, il n'y avait pas de traces de potentielle transhumance, si vous voulez, là où on était. Les missions, bien entendu, sont réalisées avec une véritable étude. On va pas aller au mauvais endroit. Si on est là, c'est qu'on sait que c'est ici potentiellement que ça passe. Et si ça passe ici, c'est qu'il n'y a que ça. Mmh. On va pas commencer à s'amuser à faire du... à aller taper dans la mauvaise porte, si vous voyez ce que je veux dire. On peut pas...
Ouais. Et donc, les véhicules, ils sont arrivés au bout de combien de temps?
Alors, au bout de, je crois, 3 jours.
3 jours dans le désert, est-ce qu'on finit un peu par se sentir comme un bédouin au bout d'un moment? Enfin, c'est vrai, enfin, vous avez sans abri, etc., à marcher dans les dunes, à chercher des trucs, enfin, je sais pas s'il y a des dunes là où vous étiez, enfin bon, à chercher vraiment dans le désert. Comment est-ce qu'on vit? Parce que c'est long, quoi, enfin, c'est très long pour une mission sans retourner à la base le soir, etc.
Écoutez, c'est effectivement assez long, mais en même temps. C'est un métier dans lequel on apprend à être patient. Si on n'est pas patient quand on est militaire, a priori, c'est qu'on s'est un peu trompé de voie. Et quand on fait comme ce qu'on faisait, des missions qui se rapportaient un petit peu du contrôle de zone, il faut être capable d'attendre. Si on n'est pas capable d'attendre, eh ben, on fait trop de bruit ou trop de mouvement et la personne qu'on est censé récupérer et justement qu'on est censé attraper, ben, elle va prendre soit un autre itinéraire, soit elle va se terrer et elle va attendre que nous, on parte. Voilà. Donc en fait, on sait pourquoi on attend. Et quand on sait pourquoi on attend d'autant plus facilement.
Et c'est quoi le plus pénible dans le désert ? Est-ce que c'est la chaleur? Est-ce que c'est le sable? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir d'ombre? Enfin, de trouver difficilement de l'ombre? Est-ce que c'est la soif? Quand on est à pied comme ça dans le désert, en plus avec un barda qui est assez significatif, parce que, enfin, je sais pas d'ailleurs combien ça pesait, mais ça va être assez lourd. C'est quoi le point de cristallisation de l'inconfort, disons?
Je pense que quand vous êtes dans le désert, on revient à des besoins très simples. Est-ce que j'ai de quoi boire? Oui, c'est bon. Est-ce que j'ai de quoi manger? Oui, c'est bon. Est-ce que j'ai de quoi m'abriter? Ben, j'ai un filet de camouflage au-dessus de moi. Bon, j'aurais bien un peu plus, mais j'ai que ça. Et j'ai essayé de le mettre au mieux, parce que le soldat français, il a quand même cette marque de fabrique, c'est qu'il est particulièrement bon pour... aménager au mieux son petit espace de vie, que ce soit en caserne ou alors en mission ou en opération. Donc, quand on est dans le désert et qu'on est en mission, je vous avoue qu'il y a des moments où on pense au moment où on reviendra au camp de base. Et là, on a un petit sourire en disant « ça va être pas mal ». Mais
Et quand on est au camp de base, on pense au moment où on reviendra
et
à la caserne.
Et on se dit « ouais, effectivement, c'est vraiment pas mal ». Mais j'avoue franchement que j'ai été vraiment... agréablement, enfin j'ai pas été vraiment surpris parce que je m'attendais pas à une autre impression, mais j'ai eu les hommes que j'ai pu voir, les parachutistes, que ce soit des n'importe quel régiment qui était avec moi, c'était des gens qui avaient le sourire, franchement. Ils se sont...
Et pourquoi? Parce que c'est... Est-ce que c'est parce que c'est... Je vais le dire de manière... Mais parce que ce que vous faites, c'est cool. Enfin, c'est-à-dire, dans une certaine mesure, c'est quand même assez fou de sauter en parachute, déjà, dans l'absolu, dans le désert, de faire des missions un peu excitantes, même si vous trouvez rien. Ou est-ce que c'est parce qu'on trouve du plaisir à la dureté, à la souffrance et au fait de surmonter cette souffrance? D'où il vient le sourire?
Il vient de la. Bon, je pense qu'il y a plusieurs sentiments qui sont mêlés. Le premier, c'est que on est tous ensemble, en fait, si vous voulez, du première classe au colonel à subir les mêmes conditions climatiques. On a été tous ensemble à subir également la claque à l'ouverture du première classe au colonel. Voilà, donc
à
en fait,
l'ouverture du
si vous voulez,
parachute.
voilà, c'est ça. Et donc, si vous voulez, il n'y en a pas un qui a plus que l'autre. Ensuite, il faut que ça aille bien.
Le colonel, il saute avec vous?
Et bien sûr, absolument. Ah bah oui,
Bah, je sais pas, j'imagine il y a un moment où
Ah bah oui,
où on a les articulations un peu plus douloureuses et on
Ah
arrête de
bah
sauter.
c'était peut-être le cas, mais non, 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 on a sauté ensemble, il était trois. Je crois qu'on avait deux parachutistes d'écart quand on était sur le au sein dans l'avion avant de sauter. Non, non, il a sauté avec nous, bien sûr. C'est une des je pense que c'est aussi une des éléments qui fait vraiment la force de cette troupe, c'est que au moins au saut, tout le monde est égaux. Voilà. Et si vous y prenez mal pour sauter, bah même si vous avez trois ou quatre barrettes, ben vous vous ferez mal.
Ça veut dire qu'on s'y prend mal.
Ben parce qu'en fait, il y a des sauts qu'on arrive à bien réussir, et d'autres, pour des raisons particulières, eh ben, qu'on
Mais ça dépend
réussit un
quoi?
peu
C'est la
moins.
position,
De
c'est...
beaucoup de choses, de la position, un peu comme quand vous conduisez une voiture, souvent le principal danger ne vient pas de vous, mais de la personne qui est en face de vous et qui a des réflexes qui sont différents. Comme je vous ai expliqué au début, l'objectif, c'est d'arriver de façon la plus compacte possible. Donc il y a des cadencements qui sont réalisés. On sort un parachutiste par porte et et toutes les secondes. Donc ça fait par porte, toutes les 2 secondes, vous avez un parachutiste qui sort. Il suffit que au moment où les gens sortent, eh ben, ce cadencement soit un petit peu distendu ou retendu, eh ben, vous vous retrouverez à une distance plus courte entre deux parachutistes. Et donc derrière, vous pouvez avoir potentiellement des problèmes liés à ça. Vous avez, enfin. Pour finir, si vous voulez, la force, je pense vraiment, parce que j'ai pu vraiment le voir l'éprouver, vous avez une vraie cohésion qui naît du saut. Il n'y a pas que ça, bien sûr, mais c'est véritable, enfin c'est réel. Et donc pendant ces quelques jours, 8-10 jours d'opération, j'en avais fait une en arrivant, mais ça c'était une deuxième, on voit les gars, alors bien sûr, il y a de temps en temps la petite remarque, ouais, il fait chaud et tout, oui, mais très bien. Mais derrière, la mission, elle est remplie. Elle est remplie. Et je tiens à dire quand même que c'est pas une marque de fabrique des parachutistes. Hein, dans l'ensemble des unités de l'armée de terre, globalement, et des armées, on a cette chance d'avoir des gens qui sont heureux quand ils ont la possibilité de faire leur travail dans les conditions, quelles que soient les conditions d'ailleurs, souvent qui leur sont données en opération.
Et donc 8-10 jours, donc vous trouvez des trucs, mais en même temps vous trouvez pas, vous préparez un peu au combat, j'imagine, même mentalement, il arrive pas. C'est frustrant, ou c'est soulageant, ou c'est indifférent, de toute façon il y avait une mission à faire, elle est faite. Comment est-ce qu'on gère ce fait d'attendre pour un truc qui en fait ne vient pas vraiment?
Déjà, on a, comme je vous dis, on a trouvé quand même quelques plots, donc on a toujours derrière des comptes rendus réalisés. Potentiellement, on peut relancer aussi des actions un petit peu ailleurs. Donc en fait, 8 jours, il y a toujours des éléments qui sont faits. On a l'appui également des différentes de d'autres composantes, où on a des appui aérien qui vient également faire peut-être un peu de renseignement par la voie des airs. Enfin, si vous voulez, c'est pas 8 jours à se tourner les pouces, clairement. Et puis derrière, on sait en tout cas que là où on est, eh ben, a priori, ça passera moins facilement si ça doit passer. Mmh. Voilà. Donc,
mais même au quotidien, comment ça... Enfin, je sais pas, j'imagine que c'est pas exactement la même chose pour le colonel et pour le première classe.
Bien sûr.
Peut-être qu'il y en a un qui... Enfin, qu'il y a des choses qui disent... Enfin, j'imagine, mais c'est ce qu'on voit dans les films, de « j'espère qu'ils vont venir », etc., on les attend, enfin... ou peut-être pas, peut-être que c'est complètement la vie intérieure de chacun. Comment est-ce que ça se gère sur le terrain, quoi?
Non, mais en fait, là, chaque petite cellule a son petit cycle de vie, si vous voulez, avec les gens qui... je peux pas dire les gens qui travaillent et les gens qui dorment, parce que c'est pas véritablement ça, mais vous avez les gens qui prennent leur tour de garde, parce qu'en fait il faut rester attentif et attentif sur la durée. Donc ben, vous en avez un qui prend la garde pendant que l'autre mange, le troisième peut-être nettoie son armement parce qu'il y a beaucoup de sable quand même. Enfin, il y a pas mal de... Il faut faire attention que l'armement soit toujours en mesure d'être employé, enfin, qu'il soit toujours exactement apte à fonctionner. Excusez-moi, c'est le terme est plus correct.
Vous avez déjà eu un fusil qui s'enraye à cause du sable?
Alors moi, à titre personnel,
non. Vous avez déjà
non,
vu le truc, quoi. Enfin, l'espèce d'usure du sable sur le matériel.
Alors, le sable est jamais bon pour l'armement, ça c'est évident. Et comme on nettoyait quand même assez régulièrement notre armement et on l'entretenait, on voyait qu'il y avait quand même beaucoup de sable qui rentrait. Donc je suis pas capable de vous répondre sur cette question. Mais ce que je sais en tout cas, c'est qu'on le nettoyait, on le reluait et il y en avait besoin pour être sûr que ben, justement au moment où potentiellement on en aurait besoin, eh ben, on puisse être ben, avec une certitude raisonnable et très raisonnable que ben, on puisse l'utiliser.
Et est-ce qu'on peut, j'allais dire, se distraire, enfin c'est tout bête, mais est-ce qu'on peut, je sais pas, avoir un bouquin, écouter de la musique, enfin je veux dire, le 8 jours c'est quand même très long, même si on est en mission et j'imagine bien qu'on est concentré. Enfin, en même temps il y a aussi des sautes d'attention forcément, ouais. Et puis on fait pas que manger.
Non,
et...
non, bien sûr.
Mais est-ce qu'on peut faire autre chose ou pas?
Bah, là, effectivement, il y en avait certains qui amenaient en plus dans leur musette. Enfin, plus quand on avait la chance d'avoir la rame roue, enfin pas la chance parce qu'on l'a eu, quand la rame roue est arrivée, il y en avait certains qui donnaient effectivement quelques effets supplémentaires, un livre ou autre. On essayait d'éviter tout ce qui était à base de piles. Parce qu'en fait, qui dit à base de piles dit potentiellement, au bout d'un moment, bah, ça ne marche plus. Donc un livre, c'était très bien pour ça, ou un jeu de cartes, ou ce genre de choses. Voilà, pour,
mais encore une fois... Vous voulez dire que dans l'armée, du coup, on apprend à lire, plus qu'à faire d'autres choses.
Alors, je trouve cette...
Non, mais je sais pas. C'est... Non, mais c'est une...
Là,
bah,
non, non.
C'est...
Non, mais en fait, vous avez... Alors, vous seriez assez surpris de la capacité...
C'est pour ça que je fais ça.
Oui, ouais, tout à fait. Comment dire, la connaissance de certaines personnes, je vais utiliser un terme un peu générique, non officiers, certaines connaissances de personnes non officiers, qui sont souvent, et très souvent, des gens très érudits, qui s'y connaissent beaucoup, qui ont un domaine de prédilection. Et non, il y a.
Non, je le crois très volontiers, mais c'est plutôt un truc de. On dit que les gens lisent de moins en moins, enfin etc. Et en même temps, j'imagine qu'il y a certains milieux, certaines occasions, certaines dispositions techniques. Où la lecture est en fait peut-être la seule solution pour passer le temps, quoi.
Comme je vous ai dit tout à l'heure, on revient à des fondamentaux, comment dire, boire, manger, et puis après, ben, effectivement, avec un livre, quand vous voyez quelqu'un qui a un livre en main, et que ben, le temps commence à peut-être paraître un peu long pour vous, c'est plus facile de lui dire, bah, tiens, est-ce que tu me le passes quand tu auras terminé, ou alors quand tu vas prendre ta garde, et ça nous permet aussi effectivement, de s'instruire autre.
Et vous vous souvenez de ce que vous avez lu là-bas?
Moi, j'avais fait la bêtise de ne pas emmener de livre.
C'est vrai.
Voilà.
Donc, du coup, vous essayez de les voler.
J'ai essayé de récupérer un livre auprès d'un de mes camarades, mais j'ai commencé à le lire et je ne l'ai trouvé pas du tout intéressant. Bref, c'est des choses qui arrivent.
Merci beaucoup, commandant.
Je vous en prie.